Remercie le Seigneur. Nous le remercions, car il est bon et sa bonté demeure éternellement. Elle demeure éternellement, reste pour toujours. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Que tout ce qui est à moi, mon âme, n'oublie pas tout ce qu'il t'a fait de bien. Tout ce qu'il t'a fait de bien. Tout ce qu'il t'a fait comme bien. À lui est tout pouvoir. Tout pouvoir lui appartient. Il est tout puissant. Son œuvre est sage. Et sa bonté se renouvelle tous les jours. Se renouvelle tous les jours. Grand est le Seigneur. Oui, grand est le Seigneur. Son nom est saint. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Est remplie de sa gloire. Adorez-le. L'adoration est au Seigneur. Dans la crainte, la sainte crainte. Quand nous prononçons son nom, nous sommes saisis de crainte quand nous prononçons son nom. Chantez pour le Seigneur. Chantez pour le Seigneur. Dans la chorale, car il agrée nos cantiques de louange. Car il agrée nos cantiques de louange. Car il agrée nos cantiques de louange. La gloire est à Jésus. Le monde des anges le loue. Tous se prosternent et louent. Et louent. Couronnez-le, couronnez-le. Lui, comme roi du monde. Couronnez-le. Prosternez-vous devant lui. Prosternez-lui, vous devant lui. Chantez pour lui, louez-le. L'agneau ressuscité et couronnez-le. Couronnez-le, car il a vaincu comme roi du monde. Vous, troupes des rachetés d'Israël, vous qui restez fidèles au roi, vous qui restez fidèles au roi, chantez-lui des louanges et des cantiques de joie à Emmanuel, et couronnez-le. Couronnez-le comme roi du monde. Pécheurs, tous. Et tous les peuples. Le vainqueur vous appelle. À le louer pour ses douleurs sur la croix. Couronnez-le comme roi du monde. Nous chanterons dans la gloire le cantique que chantera l'épouse. Déjà ici, dans les tente des justes, s'élèvent des cris de joie au roi du monde. Couronnez-le, roi du monde. Bien, frères et sœurs dans le Seigneur, pour cette réunion d'aujourd'hui particulière de Zurich, nous saluons le monde entier, dans le monde entier tous ceux qui sont connectés en direct et qui écoutent par l'Internet dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur pour ce dernier temps de la grâce de préparation, connaissant de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu pour écouter sa sainte et précieuse parole de l'heure d'une bouche mandatée, autorisée à parler. Je crois que c'est notre prière à tous que le Dieu Tout-Puissant bénisse, continue à bénir le porteur de sa parole, le fortifie et le garde. Et lui accorde par sa droite qui donne le salut. Tout ce dont il a besoin. Quelle grâce, quel privilège de ce que nous ne manquons pas de nourriture spirituelle et que nous-mêmes, dans ce temps difficile, nous pouvons encore avoir des réunions en direct. Partout où sa parole aujourd'hui sera écouté, que le Seigneur puisse être présent et d'une manière particulière bénir. Que le Seigneur puisse lui-même achever l'œuvre qu'il a commencée, son œuvre de la rédemption. Qu'il puisse maintenant appeler les derniers à sortir et d'une manière puissante confirmer sa parole. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Luc chapitre 11, dès le verset 1, du verset 1 au verset 13. Luc chapitre 11, du verset 1 au verset 13. Jésus était en train de prier dans un lieu, et lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit : Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Puis il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain suffisant jour après jour. Et pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous sont redevables, et conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Puis il poursuivit, « Qui d'entre vous aurait un ami et irait le trouver au milieu de la nuit en lui disant, « Ami, aide-moi en me donnant trois pains. » Car un de mes amis est venu me voir en voyage et je n'ai rien à lui présenter. Et que celui-ci répondrait de l'intérieur, « Ne me dérange pas. La porte est déjà fermée à clé et mes enfants sont déjà au lit avec moi. Je ne peux pas me lever et te le donner. » Je vous le dis, même si étant son ami, il ne se lèverait pas et ne lui donnerait pas ce qu'il désire, là, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin à cause de la ténacité, de l'acharnement, de sa persistance obstinée. Ainsi, je vous le dis à vous aussi, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Mais où y aurait-il parmi vous un père qui, lorsque son fils lui demande du pain, lui tendrait une pierre, ou s'il lui donne, ou s'il lui demande un poisson, lui tendra-t-il un serpent à la place, ou même un scorpion au lieu d'un œuf? Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père du haut des cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Au verset 1, nous avons lu qu'un disciple disait à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Cette demande de ce disciple est aussi notre cri de détresse. « Seigneur, sans la prière, nous ne pourrions pas atteindre le but. Et nous ne savons pas prier comme il faut. Aide-nous, Seigneur. » Seigneur, apprends-nous aussi à prier. Nous voulons maintenant prier. Père céleste, avec cœur reconnaissant, nous regardons ensemble à toi. Duquel vient notre secours? Nous regardons à toi et nous te remercions pour ton amour éternel, ta fidélité et ta miséricorde éternelle que nous avons reçu. Nous te remercions, je te remercie de tout mon cœur pour l'élection, pour la prédestination avant même la fondation du monde, de ce que nous appartenons à ta troupe rachetée par le sang, à la troupe des vainqueurs par ta grâce. Tu es tant merveilleux, tu es tellement merveilleux. En Jésus-Christ, tu t'es révélé à nous. Tu es un Dieu personnel. Seigneur, nous voulons aujourd'hui personnellement t'expérimenter et aussi les expériences promises du salut, les expérimenter tous personnellement. Bénis et fortifie particulièrement ton serviteur fidèle et agis et produis et fais en sorte qu'il puisse ensuite nous parler plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Bénis et fortifie tous nos frères et sœurs qui partout sur toute la terre vivent dans l'éparpillement et accorde-leur tout ce dont ils ont besoin pour que nous puissions atteindre le but glorieux ensemble. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté parfaite soit faite dans notre vie à tous, dans le saint nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais très très cordialement saluer tous. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur, très reconnaissants de ce que nous pouvons avoir ces réunions qui dans le monde entier sont transmises. Le frère Baumgartner a, n'est-ce pas, lu une parole puissante. Nous allons encore revenir à en parler. Concernant le temps dans lequel nous vivons, quotidiennement, nous sommes tous informés, tous écoutent et suivent les nouvelles. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce serait mieux de ne rien dire sur ce qui se passe. Mais on peut dire la chose suivante, que la fin de toute chose est très rapprochée et que tout ce qui se passe maintenant est, montre vraiment que c'est la fin des temps, que ce soit le changement climatique, que ce soit toutes les autres choses qui se passent. Qui aurait pensé qu'en un seul jour, plus de 37 degrés, et deux jours plus tard, 13 degrés, une telle différence en seulement deux jours. Et quand ensuite nous écoutons les nouvelles internationales, d'un côté il y a la sécheresse et de l'autre côté, pendant le même temps, il y a des inondations. Les mers du monde augmentent. Et c'est déjà, il a déjà été dit, combien de villes très bientôt pourront être sous l'eau, pas seulement Venise. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix que de demeurer sobre et normal, mais de fixer, mais nos yeux voient, nos oreilles entendent, et nous avons compris ce que le Seigneur a dit. Quand vous verrez que tout cela arrive, et si notre Seigneur a dit que avant son retour, la condition du monde sera telle qu'elle a été dans les jours de Sodome et de Gomorrhe, on préférerait ne même pas mentionner ces choses, mais avec une grande douleur, je voudrais malgré tout le dire. Pourquoi est-ce que de la réclame et de la publicité ne sont pas faites pour la famille et le mariage? Pourquoi font-ils des publicités pour des choses qui n'ont pas directement leur place dans la vie quotidienne? Et quand ensuite on écoute dans les nouvelles que même en Israël, un drapeau arc-en-ciel a été accroché au mât. En Israël, un drapeau arc-en-ciel pour démontrer la diversité des sphères sexuelles. Et bien aimés frères et sœurs, c'est incompréhensible. Ils font des réclamations, et des publicités pour toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. Mais nous ne voulons pas juger et porter jugement. Ça fait que nous faire mal de voir cela. Et cela nous rappelle les paroles de notre Seigneur de ce que nous devons nous redresser quand nous voyons ces choses et lever nos têtes car nous savons que notre rédemption est proche. C'est un signe que notre rédemption est proche. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants. Nous ne portons pas de jugement. Tous les hommes ont le droit de faire ce qu'ils font, de croire ce qu'ils croient, ce qui est écrit dans la Bible est seulement adressé aux croyants qui croient ce qui est écrit dans la Bible et qui l'acceptent pour eux personnellement et croient ces choses et les mettent en pratique. Mais quand on regarde quand on passe à l'autre côté, cette sainte, précieuse Bible, maintenant, est disponible dans 704 langues dans le monde entier. Dans tous les dialectes, dans beaucoup de langues, partout, il n'y a plus personne sur terre qui pourrait dire « Je ne sais pas ce qui est écrit dans la Bible. » Et malgré tout, avec grande douleur, on doit dire que déjà dans l'Église primitive, il y a eu des déviations de l'original et que déjà il y a eu des interprétations dans l'Église primitive qui ont été apportées. Et quand ensuite on regarde dans les 6 premiers siècles après Christ, tout ce qui s'est passé ensuite, que ce soit avec Polycarpe, que ce soit avec Irénéus, que ce soit avec Martin, volontairement je ne dis pas Saint-Martin, parce que je ne crois pas à un saint, mais seulement au Saint-Dieu. Mais tous ces hommes et ce qu'ils ont apporté comme enseignement, n'est-ce pas, jusqu'à même le concile de Nicée. Et déjà là, directement, ça a commencé à apporter des enseignements, des explications qui ont fait mal au peuple d'Israël et bien sûr aussi fait mal à Dieu. Particulièrement que Dieu serait constitué de 3 personnes éternelles, que le Père est éternel, que le Fils est éternel et que le Saint-Esprit est éternel. Et celui qui lit tout l'Ancien Testament, il lira par toutes ces promesses merveilleuses. Je lui serai père et il me sera fils. Je ferai de lui le premier-né. Et aussi toutes ces promesses. Tu es mon fils bien-aimé. Je t'ai aujourd'hui engendré. Donc, toutes ces merveilleuses promesses glorieuses qui font référence à la naissance, oui, qui font référence à notre Rédempteur, à notre Sauveur. Dieu, depuis le commencement, n'est-ce pas, avait annoncé tout ce qu'il avait comme intention. Et celui qui lit tout, et celui qui a lu tout l'Ancien Testament, il sait, n'est-ce pas, que pas une unique fois, un prophète, un homme de Dieu aurait parlé d'un Père au ciel. Ou alors, se serait adressé, ou bien prié, adressé sa prière à un Père au ciel. Celui qui a lu tout l'Ancien Testament sait très exactement que personne n'a parlé d'une deuxième personne comme un fils qui devrait être au ciel. Pour moi, c'est incompréhensible, insaisissable. Et avec une grande douleur, c'est lié à une grande douleur, que le dessein du salut de notre Dieu a été incompris et que tout les versets bibliques ont été interprétés, expliqués, comme déjà dit, à quoi est-ce que ça sert que la Bible existe en 704 langues, si elle est interprétée directement de plus de 704 manières dans toutes les directions, dans toutes les différentes langues. Et nous avons 350 dénominations dites chrétiennes, et tous interprètent la Bible selon leur manière, à leur façon. Tous ont leur confession de foi et se réfèrent malgré tout à la Bible, quoiqu'en fait, ils ont rien de commun avec ce que Dieu a dit dans sa sainte parole. Ils font que, n'est-ce pas, ils font qu'introduire leur propre enseignement. Tout en se référant à la Bible, qu'est-ce que nous devons dire à cette tromperie? Nous vivons dans le temps dans lequel les promesses avant le retour de Jésus-Christ doivent s'accomplir. Oui, s'accomplissent. Et Dieu, n'est-ce pas, a donné la promesse qu'il enverra un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et que le devoir de cet homme de Dieu consistera à rétablir toute chose dans l'état primitif, de ramener tout et conduire tout au modèle biblique, apostolique de l'Église primitive, à l'enseignement des apôtres, au baptême des apôtres, à l'enseignement des apôtres, à la pratique des apôtres, tout comme cela était dans l'Église primitive. C'est comme ça que maintenant, dans l'Église du Dieu vivant, les choses doivent être rétablies. Et bien-aimés, frères et sœurs, nous n'avons pas honte pour cette raison de mentionner même le nom de celui que Dieu, d'une manière particulière, dans notre temps, a pu utiliser. Tel que Martin Luther est nommé, tel que John Wesley, William Booth, John Smith, comme tous ces hommes sont nommés, Calvin et tous ces hommes qui ont existé, qui ont apparu. Bien, mes frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu a eu le droit, dans notre temps, de prononcer un appel, un envoi, un mandat, pour ainsi accomplir sa propre promesse. Il a le droit, il a eu le droit lors de la première venue de Christ de faire en sorte que autrefois, il fut prononcé ce qui arrivait et que des choses surnaturelles accompagnaient le message lors de la première venue de Christ. L'ange Gabriel vint, est descendu et s'adressa à Zacharie, s'adressa à Marie, et des choses surnaturelles avaient donc arrivé depuis le commencement déjà du Nouveau Testament. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit principalement de comprendre que aussi certain que Jean-Baptiste était dans son temps l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez un chemin pour notre Dieu. Jean-Baptiste savait très exactement quel verset biblique se référait à son ministère et trouvait son accomplissement et avait trouvé son accomplissement par son ministère. Aussi Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, je vous envoie mon messager devant ma face. Mais ici, la grande question. Les scribes, les pharisiens, les sadduciens avaient dans cette époque d'autrefois leur interprétation, leur explication. Ils avaient la Torah, donc les cinq livres de Moïse. Ils l'ont lu de tout leur cœur et de tout leur âme. Mais ils avaient aucune révélation par l'Esprit de Dieu dans leur lecture. Ils avaient seulement la lettre morte. Ils avaient la parole écrite. Et la parole écrite, aujourd'hui, des milliards d'hommes l'ont sur terre. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour la parole écrite pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais bien-aimés, frères et sœurs, la parole écrite doit devenir une parole révélée, une parole vivante de Dieu, parce qu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Les promesses qui sont écrites dans ce livre doivent nous être révélées. Et aussi, nous voulons, par la grâce de Dieu, et nous allons, par la grâce de Dieu, expérimenter leurs accomplissements personnellement. Revenons à la parole d'introduction que le frère Baumgartner a lu, et bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, à cette parole d'introduction, je voudrais lire avant cette parole d'introduction un verset que le frère Baumgartner m'a cité lors d'un appel téléphonique. Et je voudrais que maintenant ce verset-là soit lu de Jérémie chapitre 15, le verset 16. Jérémie chapitre 15, verset 16. Toutes les fois que tes ordres ont été donnés, j'en ai fait ma nourriture. Et tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur de tout notre cœur. Cette parole me concerne, s'ajuste à moi. Toutes les fois que tes ordres m'ont été donnés, j'ai fait ce que tu as ordonné, ce que tu as commandé, ce que tu m'as ordonné de faire. Toutes les fois, ô Seigneur, que tu as donné une instruction, je les ai mises en pratique, je les ai exécutées. Chaque ordre, chaque instruction de ces 15 commandements que le Seigneur m'a personnellement, audiblement donné, avec voix audible m'a prononcé, m'a donné, chaque ordre, chaque commandement, je les ai exactement exécutés. À chaque fois, avec saint respect, car avec le respect que la voix audible de l'Éternel déjà produit au Père, en celui qui l'écoute. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer quel impact a, ou bien alors quel effet produit la voix audible de l'Éternel en nous, en moi, à chaque fois, comme crainte et sainteté, et respect, et respect. Et on n'a pas un autre choix que de faire à 100% exactement ce que le Seigneur a ordonné. Déjà, sa voix audible produit ça en nous. Je voudrais revenir à toutes ces années passées dans lesquelles le Seigneur a donné des ordres, a ordonné, a commandé, a ordonné, a donné des instructions dans ce que nous devons faire. Et je peux avec bonne conscience devant Dieu le Seigneur dire que à chaque fois, dans la sainte crainte, j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné. Et jusqu'à aujourd'hui, le mandat d'aller de ville en ville, de pays en pays, pour apporter le message, est saint pour moi parce que le Seigneur lui-même a prononcé de sa bouche ce mandat. Et tout repart au 11 juin 1933. Alors que le Seigneur avait donné cette instruction directe à Frère Branham, ce mandat direct à Frère Branham d'apporter le message qui sera précurseur du retour du Christ. Nous n'allons pas à chaque fois nouvellement entrer dans les détails de ces choses. Mais le ministère qui maintenant est exécuté actuellement a lieu sous un ordre direct, sous un mandat direct de Dieu, dans la volonté directe de Dieu pour l'Église avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aussi pour cela, nous en sommes très reconnaissants que Dieu, dans ce temps de détresse, de difficulté, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, l'année 2020 et aussi maintenant l'année 2021 sont pour nous, pour les croyants, des temps d'épreuve comme jamais auparavant. On ne peut pas tenir de réunion comme dans toutes les années passées. Toute cette prescription doit être respectée. Et tous nous soupirons dans cet état, gémissons. Et nouvellement, maintenant, je suis toujours rappelé de cette parole de 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais un esprit de puissance, d'amour, d'autodiscipline et de correction de soi-même. 2 Timothée 1 verset 7. Réfléchissez un peu. Le monde entier n'allait jamais entendre parler du message comme cela est le cas maintenant. Moi-même, n'est-ce pas? Au moins, j'ai été dans 165 pays, personnellement, dans 165 pays. Mais maintenant, tous, dans tous les pays, écoutent en direct. Et nous avons pu faire en sorte que cela soit possible. Nous avons acheté 1500 appareils, équipements, afin que même dans les pays où il n'y avait pas de possibilité de transmission et pas encore d'équipements à leur disposition, nous avons fait en sorte que tous les frères et les sœurs aient pu recevoir les équipements nécessaires pour maintenant suivre vraiment les prédications que nous transmettons vraiment du centre toutes les semaines, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, chaque semaine dans le monde entier, les enfants de Dieu peuvent se connecter au centre et écouter ces prédications. Et c'est de cette manière-là maintenant que l'Église épouse est préparée. Car nous ne savons pas ce que le futur va nous apporter. Mais il y a une chose qui est certaine. Le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de la rédemption. Et comme si souvent nous l'avons chanté, même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Tu connais le temps. Ton plan est déjà préparé et prêt à être exécuté. Revenons à la parole d'introduction et je demande que nous puissions lire le premier verset encore une fois de Luc 11. Nous lisons de Luc 11 dès le premier verset jusqu'au verset 4. Luc chapitre 11, verset 1. À 4. Jésus était en train de prier dans un lieu. Et lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Faisons une pause ici un moment. Apprends-nous à prier comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Frères et sœurs, ça, c'est aussi notre désir. Apprends-nous à prier. C'est ainsi qu'un cantique le dit. Apprends-nous à prier, apprends-nous à supplier. Que nous puissions venir dans la présence de Dieu dans la prière. Des prières que Dieu peut exaucer, des prières auxquelles Dieu peut répondre. Apprends-nous à prier. Mais pas seulement ça. Apprends-nous apprends-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Apprends-nous dans tous les domaines. Et cela commence avec la prière. Et ensuite, tous les autres domaines de notre vie de croyance sont inclus dans la prière, jusqu'à même que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Continuons à lire le verset 2. Puis, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous notre pain suffisant jour après jour, et pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous sont redevables. Et conduis-nous. Donc, ne nous conduis pas en tentation, mais dans le texte araméique, il est écrit conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Que le nom du Seigneur soit loué pour sa sainte et précieuse parole. Bien-aimés frères et sœurs, chaque dimanche, le Notre Père est récité dans beaucoup d'églises comme prière. Mais qui respecte le contenu de cette prière? Qui de tout son cœur pratique ce qui est écrit dans cette prière? À qui est-ce que cette prière a vraiment touché le cœur et qui la met en pratique? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quel est le nom du Père qui doit être sanctifié? Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur a dit, n'est-ce pas, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. Le nom du Père et n'est-ce pas le nom du Fils? C'est déjà comme ça dans le terrestre. Tel que ton papa s'est appelé, c'est ainsi que toi aussi tu t'appelles. Moi je suis Franck parce que mon papa était Franck. Et alors, quand nous pensons à ce que le Seigneur dans l'ordre missionnaire disait, l'ordre missionnaire du baptême dans le résumé, il dit, et baptisez-les dans le nom du Père, à l'intérieur, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, ne pas rester seulement à cela, mais ensuite passer à l'exécution de cet ordre missionnaire. Aller voir comment est-ce que cet ordre dans la Bible a été exécuté et comment est-ce que l'ordre missionnaire du baptême a été exécuté. C'est-à-dire que Pierre a employé ce nom dans lequel Dieu, comme Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé dans ce précieux et saint nom, tous les croyants, depuis la Pentecôte, depuis le fondement de l'Église du Nouveau Testament, ont été baptisés. C'est pour cette raison que Pierre pouvait dire, répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. Alors, à quoi est-ce que ça sert à ces milliards d'hommes si, par habitude, ils prient « Notre Père qui est aux cieux etc., 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 etc. » Ils ne s'occupent même pas de ce que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie, et cela comme elle est faite au ciel, aussi sur terre. Mais c'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comment voulons-nous que son nom soit sanctifié? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand ensuite, nous pensons bien, mes frères et sœurs, que notre Seigneur, dans la prière particulièrement à Gethsémané, a exprimé, et cela pour nous apprendre justement comment est-ce que nous devons prier. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais que ta volonté soit faite, que je fasse ce que tu veux comme tu le veux. Lisons plusieurs versets, deux ou trois versets qui parlent de la prière et ce qui va avec. Dans Matthieu 15, le verset 9. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent parce qu'ils présentent comme enseignement des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 9. Ici, nous avons un avertissement très sérieux. C'est en vain qu'ils adorent, c'est en vain qu'ils me vénèrent, c'est en vain qu'ils m'adorent, c'est en vain qu'ils prient parce que ils ont fait des commandements d'hommes leur enseignement. Vous pouvez aller d'église en église, vous pouvez aller. Tous ont leurs propres enseignements qu'ils ont fait. Et comme titre, en vain, qu'ils adorent le Notre Père, qu'ils prient le Notre Père, c'est en vain qu'ils prient le Notre Père, c'est en vain qu'ils s'attendent, qu'ils parlent de cela, c'est en vain qu'ils parlent du Notre Père et qu'ils prient le Notre Père parce que ils ont fait des commandements d'hommes leur enseignement. Celui qui vraiment, de tout son cœur, sincèrement prie, veut prier, il faut qu'il puisse dire que ta volonté soit faite. Et il doit pouvoir dire, révèle-moi ta volonté qui est écrite dans ta parole. Il prie et il dit, conduis-moi par ton esprit dans toute la vérité. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé des églises? Qu'est-ce qui est devenu de l'église? Qu'est-ce qui est devenu du christianisme? Tout a pris son cours. Et quand nous regardons à ces 2000 années depuis Christ, depuis le fondement de l'Église, tout ce qui a été inventé comme enseignement, oui, allons au dogme de la Trinité. Réfléchissez un peu. Depuis l'année 321, il y a eu des discussions et des discussions. Et dans l'année 386, le Saint-Esprit a été déclaré troisième personne de la divinité. Mais c'est seulement dans l'année 675, que la Trinité a été déclarée un dogme, comme dogme. La Trinité, en 675, a été déclarée dogme. Donc, c'est-à-dire, dogme, ça veut dire une vérité infaillible pour l'Église catholique. Pour l'Église catholique. Mais pas pour l'Église du Dieu vivant. Dogme veut dire vérité infaillible. Non, non. Mes frères et mes sœurs, ici, dans la sainte et précieuse parole de Dieu, est contenu, est écrit, tout ce qui est valable est écrit pour l'Église du Dieu vivant. Ici, il n'est pas parlé de dogme. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de statut de la foi. Ici, il n'y a rien écrit comme credo et toutes ces choses qui existent. Mais seulement ce que Dieu lui-même avait à nous dire et à nous laisser enseigner. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe à moi. Aussi, l'histoire de l'Église, je l'ai étudiée. Et tout ce qui va avec. Et les Juifs, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, ne sont pas passés par la vie avec des yeux ouverts. Et aussi autrefois, le Seigneur devait dire qu'il vint chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Et ensuite, la confirmation où il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le droit de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Chers frères et chères sœurs, est-ce que c'était encore nécessaire de lire, d'écrire le Talmud de Jérusalem, d'écrire le Talmud de Babylone, le Talmud babylonien? Tous ces écrits passent à côté de Dieu, à côté de la parole de Dieu, à côté de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça, c'est ce rabbin qui l'a dit. Et ensuite, ça, c'est ce rabbin et cet autre rabbin. Et ça, c'est cet autre rabbin qui l'a dit. Et de la même manière, c'est aussi avec le christianisme. Ça s'est passé avec le christianisme. Tous ont leur credo, ont leur enseignement, ont leur confession de foi. Et ils les ont mis sur papier. Pour quelle raison? Un testament est quelque chose d'achevé, d'achevé, qui veut ajouter à un testament quelque chose. Ici, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ensuite, à la fin du Nouveau Testament, dans Apocalypse 28, au verset 18, il est dit, et verset 19, il est dit que celui, que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera tomber sur lui les fléaux. Donc, ce n'est absolument pas permis d'ajouter ne serait-ce qu'une seule pensée humaine, ou bien alors de retrancher les pensées de Dieu sur sa parole. Qui peut aujourd'hui dire ces choses? Tous sont blessés quand on leur apporterait la sainte et précieuse parole de Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, dans tous les âges, il y a eu des vrais, il y a eu des vrais croyants. Avant la Réformation, après la Réformation, il y a eu toujours des vrais croyants dans tous les âges. Mais la restauration directe de tous les enseignements bibliques, de toute la pratique biblique a été accordée dans notre temps. Les hommes de Dieu avaient des révélations de la parole de Dieu, mais disons-le encore une fois, dans notre temps, ce ne sont pas des vérités à moitié, en partie, qui ont été révélées. Mais à frère Branham, ou bien alors frère Branham pouvait dire, comme l'apôtre Paul lui-même, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, de A à Z, sur chaque sujet biblique sur la repentance, sur la conversion, sur la nouvelle naissance, sur le baptême du Saint-Esprit, sur les dons de l'Esprit, sur les ministères, sur les services dans l'Église, sur le mariage, sur les femmes, sur les maris, tout est écrit. Nous avons seulement besoin de le lire et de le recevoir, l'accepter dans notre cœur. Avons-nous encore un ou deux versets que nous pouvons lire, s'il te plaît? Nous lisons de l'évangile de Jean, le chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, donc Jean 4, verset 24, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et dans la vérité. À cela, nous disons Amen. Dieu est esprit. La femme au puits avait dit, où est-ce que nous devons adorer? Sur la sainte montagne ou alors à Jérusalem? Et la réponse était, Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs, pas les adorateurs en général, mais les vrais adorateurs, les vrais enfants de Dieu qui sont nés d'en haut, qui sont vraiment nés de nouveau et qui sont esprits, qui ont reçu la vie de Dieu lui-même, qui comme fils et filles de Dieu, ici sur cette terre, déjà existent et ont Dieu comme Père par la nouvelle naissance et font qu'attendre le changement de leur corps mortel. Les vrais adorateurs, pas en général ceux qui dimanche, par tradition, vont à l'église et ils répètent toujours la même chose et repartent à la maison ensuite. Non, les vrais adorateurs, qui personnellement ont fait une expérience avec Dieu, de leur pardon, de leur rachat, et qu'ont expérimenté personnellement, et ont accepté et reçu ce qui a été accompli pour eux à Golgotha. Oui, qui ont expérimenté la manifestation, qui ont été établis dans leur position de fils et de fille, et qui peuvent dire avec véracité, notre Père qui es aux cieux, qui peut dire à toi Père, ou bien Papa, mais seulement tes fils, filles et filles, sinon personne sur terre peut t'appeler Papa ou bien Père, seulement ceux qui sont engendrés de toi, qui peut sur terre dire, appeler Dieu Père, seulement celui qui a été vraiment engendré par l'Esprit de Dieu et qui par ainsi est né de nouveau, qui a fait une expérience personnelle du salut et qui a trouvé ainsi grâce devant Dieu. Donc, que Dieu accorde sa grâce, bien-aimés frères et sœurs, que nous appartenions pas aux adorateurs en général qui sont éparpillés dans toutes les dénominations, mais que nous appartenons aux vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Et ça aussi, on doit le dire. Celui qui prie que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il doit savoir que notre Seigneur a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh Seigneur, apprends-moi à prier. Mon Dieu, je veux en esprit et dans la vérité t'adorer. Avons-nous encore une écriture? Nous lisons dans Hébreux chapitre 4, le premier verset. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, soyons dans la crainte, de peur que l'un d'entre vous ne soit trouvé étant venu trop tard. Mes bien, frères et sœurs, une parole très très sérieuse. Que dans aucun d'entre vous, il ne soit trouvé étant venu trop tard, n'ait pas été prêt pour l'enlèvement, soit resté, car il est écrit, celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces. S'il vous plaît, que je puisse encore dans toute la clarté le dire. Aussi certain que frère Branham avait vu la troupe parfaite, donc qui avait atteint le but dans la gloire. Tous étaient jeunes. Et il y a une sœur, c'est ainsi que frère Branham rend ce témoignage, dans son témoignage. Une sœur avait plus de 92 ans, donc 92 ans, alors qu'elle l'avait cru et expérimenté personnellement la grâce de Dieu, oui, tout ce que le Seigneur nous a préparé en Christ Jésus. Et quand dans la gloire, elle passait à côté de frère Branham, elle lui a dit, est-ce que tu peux te rappeler là et là, cela est arrivé autrefois, j'avais plus de 92 ans et maintenant regarde-moi. Tous dans la fraîcheur de leur jeunesse, que ici ils avaient 105 ans ou bien 90 ans ou bien 90 ans, ça n'a pas d'importance. Dans la résurrection, nous serons tous dans la fraîcheur de notre jeunesse. Et ce troupeau, cette troupe, moi, frère Franck, je l'ai vu. Cette troupe des rachetés qui a été enlevée, de ses yeux que vous pouvez voir, je l'ai vu. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela signifie d'être pris de son corps, sortir de son corps, et pourtant ressentir qu'on est encore dans son corps, et on regarde, on voit son corps allongé, et on se demande, mais est-ce qu'on est à l'extérieur du corps ou pas? Et moi, j'ai vu ce jeune troupe, cette jeune troupe. Ils avaient 16, 17 ans, mais personne n'avait plus de 20 ans. Tous étaient jeunes. Avaient des différentes couleurs de cheveux, mais tous étaient habillés en vêtements blancs, resplendissants. Et je savais que maintenant, l'enlèvement a lieu. J'ai, n'est-ce pas, eu mes expériences en partie que j'ai rendues comme témoignage, mais j'aimerais dire pour finir ici, ce ministère n'est pas qui est effectué actuellement, n'est pas effectué pour que des gens seulement entendent parler de ce que Dieu a fait par le ministère de frère Branham. Pas seulement pour apprendre, être informé de son mandat du 11 juin 33, du 7 mai 1946, du 20 janvier 1950, de toutes ces différentes expériences surnaturelles qui ne sont pas là pour que nous écoutions qu'il a été envoyé pour envoyer un message qui sera précurseur du retour de Christ. Ces choses sont une réalité divine. Elles sont un fait réel. Les Écritures, par cela, ont trouvé leur accomplissement dans notre temps. L'Évangile originel, saint, le message du salut de notre Dieu, a été maintenant prêché à tous les peuples, les langues et les nations. Et c'est pour cette raison, s'il vous plaît, que aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, les vrais adorateurs, que Dieu vous bien, vrais adorateurs, bien mes frères, chers sœurs, chers prédicateurs, que Dieu puisse de tout et en toutes choses faire de vous des gens qui ont fait une expérience personnelle du salut avec Dieu, qui de tout leur cœur peuvent dire, Seigneur, apprends-nous à prier, et ensuite que ta volonté soit faite. Et ta volonté, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Qu'il n'y ait pas d'enseignement étranger, de pensée humaine, d'interprétation, plus rien, mais vraiment rien à trouver dans l'Église du vivant. Que seulement la parole divine, ce que le testament divin, seulement ce qui est écrit dans le testament divin, car avec Dieu, il ne peut pas avoir de mélange. Et je crois que cette précieuse parole que le frère Baumgartner a lue comme introduction a été conduite ainsi par Dieu, déterminée par Dieu, à ce qu'il lise cela. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous dans tous les domaines de notre vie. Oui, enseigne-nous à faire ta volonté pour que nous soyons tous enseignés de Dieu et que, en accord avec la parole de et la parole et la volonté de Dieu, comme vrais adorateurs, nous adorons Dieu en esprit et dans la vérité. À lui, le Dieu, le seul vrai Dieu, soit l'honneur, la gloire pour le ministère des prophètes, pour le ministère des apôtres, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour le ministère de Frère Branham et pour ce que Dieu fait maintenant sur toute la terre. Que la bénédiction du Dieu puissant soit sur vous tous, dans le Saint-Nom, demeure sur vous tous, soit et demeure sur vous tous, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous regardons au trône de la grâce. Tu ne fais jamais de vaines paroles, de vains discours. Aujourd'hui, personnellement, tu as parlé avec nous. Et notre prière est, Seigneur, sincèrement et honnêtement, de dire, apprends-nous à prier. Fais-nous grâce à tous. Bénis ta troupe de vainqueurs. Perfectionne-nous, achève-nous, que ta volonté soit faite. Et nous te remercions encore une fois pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous te remercions pour le précieux sang de la nouvelle alliance, pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Je le dis encore une fois, au nom du Seigneur. Croyez de tout votre cœur et vous verrez et vous serez bénis de toute bénédiction que Dieu nous a donnée en Christ Jésus jusqu'à l'achèvement de et le changement de notre corps lors du retour de Jésus-Christ. Que Dieu le Seigneur, dans le monde entier, soit dans tous les peuples, les langues et les nations, avec vous tous, particulièrement avec tous les frères dans le service, dans le saint nom de Jésus. Amen. Parlez-moi du ciel, de cette ville qui existe. Où les saints chantent et louent. J'y serai bientôt. Alléluia. À haute voix, je veux chanter. Alléluia. Je marche vers le ciel. Dans le cœur, les cordes résonnent. Et je sais que bientôt, j'y serai. Dans cette ville glorieuse, décrite dans la Bible, sans larmes, sans douleur. Oh, comme mon cœur la désire. Désire y être. Déjà, maintenant, je sais que bientôt j'y serai. Alléluia. Là, tous se réjouissent. Toutes les douleurs sont passées et oubliées. Nous nous reposons dans la gloire. Oh mon ami, bientôt nous y serons. Là-bas, dans la gloire, je me tiendrai en vêtements blancs resplendissants. Et nous serons tous récompensés. Oh, bientôt, j'y serai. Alléluia. En esprit, je veux chanter. Je peux entendre les anges chanter des cantiques de louange pour l'éternel Dieu. Et je sais que bientôt j'y serai.